Alors, pendant ce mois de juillet, nous voulions vous proposer de survoler des livres bibliques pour vous donner envie de les approfondir par vous-même, par votre lecture, et peut-être vous aider à mieux comprendre grâce au contexte et aux explications par rapport à ces livres bibliques. Et j'aimerais vous présenter un livre ce matin dans la Bible. Donc, ce sera un message un peu différent des messages habituels que j'ai l'habitude de faire. Et j'aimerais vous faire peut-être découvrir ou redécouvrir un personnage de l'Ancien Testament que vous connaissez sûrement peut-être de nom, mais peut-être pas ce qu'il a fait, ce qu'il a été, ce qu'il a dit. Et j'aimerais vous faire part d'une de ses caractéristiques aussi, pour vous donner envie d'étudier ce texte plus en profondeur, après avoir écouté le survol que je vais vous proposer. Et vous allez un peu participer, parce qu'on va faire un petit quiz pour voir... Devinez un peu qui est ce personnage. Bon, certains le savent, donc je vous demande de ne rien dire. Alors, qui suis-je? Alors, c'est un homme, je vais parler d'un homme, un personnage de l'Ancien Testament. Alors, il s'occupait des naquades. Alors, qu'est-ce qu'un naquade? Est-ce que quelqu'un a déjà entendu ce mot, un naquade? Naquade? Personne? Alors... Un naquade, c'est une petite brebis. C'est tout simple. Petite brebis à courtes pattes réputée pour leur laine. Donc voilà. Alors, ils cultivaient aussi un certain type d'arbre. Alors, est-ce que vous reconnaissez cet arbre? Oui. J'ai entendu là? Cèdre, non? Olivier, non? Figuier non plus. Il y en a beaucoup dans la Bible, on en entend souvent parler. Cyprès presque. Sycomore. Alors, je cultive des sycomores. Alors, le sycomore se réfère à plusieurs types d'arbres aujourd'hui, mais à l'époque, le seul qu'on appelait comme ça était le figuier, donc j'accepte celui qui a dit le figuier comme réponse. Alors, on peut le considérer, ce personnage, comme un paysan, étant berger et agriculteur. Alors, c'est un prophète. Oh. Un prophète, son nom veut dire porteur de fardeau. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ceux qui connaissent la réponse, non, Gaston? Porteur de fardeau, ça ne vous dit rien encore. Il a vécu au 8e siècle avant Jésus-Christ, sous le règne de Josias. Le roi Josias, en Juda, et Jéroboam II en Israël. Alors, je suis... Oui? J'ai entendu? Non? Non? Je suis... Amos. Moi, je pensais l'avoir entendu, mais... Alors voici un peu le plan du livre d'Amos pour que vous ayez un peu un point de vue général du livre. Alors l'introduction, le début du chapitre 1, c'est l'introduction et l'annonce du jugement de Dieu. Puis il y a le jugement sur les nations. Puis il y a un jugement particulier sur Israël. Donc il y a des prédictions et des visions. Et aussi des promesses d'un réveil messianique. Ça c'est tout ce que le livre comporte. Et... Le ministère prophétique d'Amos était super simple. Il devait rappeler la bonté de Dieu à l'égard d'Israël, ce qui entraînait une importante responsabilité de la part du peuple. Il était chargé de ramener le peuple à Dieu et de lui demander fidélité à l'alliance et à la loi. Et il était aussi chargé d'annoncer le jugement de Dieu. Et ça, c'était difficile à entendre pour le peuple et pour le roi aussi, à l'époque. En effet, Dieu l'a envoyé pour donner un message explosif qui pouvait broyer l'âme d'un homme. Alors ça, c'est quelqu'un qui dit ça dans un commentaire, broyer l'âme d'un homme. Donc, c'était assez fort comme image. Et aujourd'hui, le message de l'Évangile est un scandale. Un scandale aux yeux de notre monde, monde déchu. Il provoque l'effet d'une bombe dans les cœurs par le Saint-Esprit qui se révèle dans l'Écriture. Et Amos, à l'époque, il n'avait pas la conscience de l'œuvre de Christ encore. Il ne possédait que la promesse de sa venue. Il savait juste qu'il allait venir Christ, mais il ne savait pas ce qu'il allait faire. Enfin, si, il savait, mais il ne l'avait pas encore vu. C'est pourquoi il est pour moi un exemple de courage, de foi, Car en plus, c'était un berger qui n'avait pas fait d'études pour ça. Il ne voulait pas devenir prophète, il n'avait pas non plus de vocation pour l'être. C'est Dieu qui lui a parlé à un moment précis, il lui a dit « Amos, vas-y maintenant, va parler au peuple. » Et Dieu peut utiliser chacun d'entre nous pour le faire aussi, aujourd'hui. Et Amos, il avait une particularité, Dieu lui parlait à travers des visions. Vous voyez là, le chapitre 7, du chapitre 7 au chapitre 9, il y a 5 visions que Amos reçoit. Et j'aimerais faire un zoom sur ces visions aujourd'hui pour vous donner envie de lire plus profondément. Alors aujourd'hui, dans le monde actuel, si on vous dit celui-là, il a des visions, quelqu'un qui a des visions, il est pris pour quelqu'un qui est fou dans le monde séculier. Ah, lui, il a des visions, il a des hallucinations, il déconne un peu. Mais dans le dictionnaire biblique à l'époque, c'était totalement autre chose. Regardez ce que dit le dictionnaire biblique, il dit « Une vision, c'est regarder fixement, percevoir par l'esprit et contempler avec plaisir. » Nos définitions nous disent « Ce que Dieu montre de manière surnaturelle à l'esprit ou aux yeux du corps. » Alors, il est difficile de différencier vision et rêve. Alors, pour moi, je ne sais pas si c'est vrai, mais pour moi, je pense que la vision, c'est quand quelqu'un est éveillé, qui reçoit une image, et un rêve, c'est quand quelqu'un est endormi. C'est sûrement pas la seule différence, mais voilà, ça c'est un peu la différence entre vision et rêve. Il existe 3 formes de vision que j'ai répertoriées. Alors, la vision par un objet extérieur, comme quand Moïse voit le buisson ardent, par exemple. La vision par imagination, lorsque Ézéchiel voit les 4 êtres vivants. Et la vision qui s'adresse par l'intelligence, dans les révélations des semaines, dans Daniel. Et ces 3 formes de vision peuvent aussi se combiner, comme la vision de Pierre, dans Actes chapitre 10, quand il vit un objet ressemblant à une nappe descendre du ciel avec des animaux dessus. En fait, celui qui reçoit une vision a la conviction que Dieu s'adresse à lui. Et la Bible nous avertit néanmoins des fausses visions aussi, provenant notamment des faux prophètes. Et les vraies visions, celles qui viennent de l'Éternel, portent l'empreinte de son esprit, de sagesse, de pureté, de vérité, de justice. Et leur contenu est important avec un but aussi didactique, qui aide, en rapport pour la plupart avec des événements prochains ou futurs, comme ici dans Amos, le jugement de Dieu. Alors, beaucoup d'hommes ont eu des visions dans la Bible, et Dieu utilisait souvent ce genre de communication pour s'adresser à eux. Et est-ce que vous savez qui a eu la première vision après la chute? Première vision. Jacob, non. Alors c'est Abraham qui a reçu la première vision. C'est dans Genèse 15, verset 1, il dit « Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit « Sois sans crainte, Abraham. » Je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera grande. » Quelle belle promesse, je trouve, pour cette première vision. Et c'est tellement beau de voir Dieu si proche d'Abraham. Et Abraham contemplait avec plaisir. Grâce à cela, il a pu croire en Dieu et plus tard conclure une alliance avec Dieu. Et l'Éternel changea son nom en Abraham, patriarche d'Israël et père des nations. Et c'est assez incroyable de se dire que la première vision, la première alliance avec Dieu, part de point de départ, une vision. Alors, est-ce qu'une vision est toujours positive? Alors, les visions n'ont pas toujours été une annonce de bonnes nouvelles ou de promesses, la preuve hein, dans le livre d'Amos, le jugement de Dieu. Et dans ce livre, 5 visions sont présentées dans ce livre. Alors, il y a la vision des sauterelles, la vision du feu, la vision du niveau, la vision de la corbeille de fruits et la vision du Seigneur sur l'autel. On va pas toutes les lire, mais je vais en prendre quelques-unes. Et ces visions sont le symbole d'un jugement imminent pour le peuple. Imminent, ça va arriver. Et elles intensifient le drame et soulignent l'urgence du message du prophète. Elle prépare également la voie de la promesse du réveil messianique, comme je disais dans l'introduction, dans le chapitre 9. Et n'oublions pas que les visions sont des illustrations et qu'elles représentent les événements qui peuvent arriver sous une forme imagée. Alors les deux premières visions, on va les lire ensemble. C'est dans le chapitre 7 d'Amos. Le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé cette vision, qu'il parle au peuple. Il formait des sauterelles au moment où le regain commençait à pousser. C'était le regain après la coupe réservée au roi. Comme elle dévorait entièrement l'herbe de la terre, j'ai dit, Seigneur, Éternel, pardonne donc. Comment Jacob subsistera-t-il? Il est si petit. L'Éternel l'a regretté, cela n'arrivera pas, a dit l'Éternel. Deuxième vision, le Seigneur, l'Éternel m'a envoyé cette vision. Le Seigneur, l'Éternel proclamait le jugement par le feu. Et le feu avait dévoré le grand abîme et dévoré le territoire. J'ai dit, Seigneur, Éternel, arrête donc. Comment Jacob subsistera-t-il? Il est si petit. L'Éternel l'a regretté. Cela non plus n'arrivera pas, a dit le Seigneur, l'Éternel. Alors dans la première vision, il nous est parlé de la pousse du regain. Alors le regain, c'est quoi? C'est la deuxième pousse de l'herbe après la première coupe. Donc on la coupe une fois et quand elle repousse, ça s'appelle le regain. Et c'est la coupe la meilleure pour un paysan. C'est celle qui est la meilleure. Donc c'est quelque chose de très bon, le regain. Seulement, les sauterelles arrivent sur ce regain et sont sur le point de tout dévorer. Et Amos demande à l'Éternel d'écarter le jugement. L'Éternel fit preuve de bonté, de grâce et écarta ce jugement. C'était une image, donc c'est pour eux, c'était fort. Et on voit aussi qu'Amos demande le pardon de Dieu pour Israël. Et c'est pas les sauterelles qui lui font peur, hein. C'est plutôt la décadence spirituelle qui dépouillait Israël de sa pureté depuis longtemps. Et surtout le jugement de Dieu sur cela. Et la deuxième vision qu'on vient de lire, elle est presque identique. C'est un rappel. Dieu rappelle encore. Et l'auteur appuie sur le fait que l'Éternel laisse une chance. Laisse une chance. Et qu'il ne traite pas le méchant selon son péché, ni selon ce qu'il mérite. Un verset dans Psaume 103, deux versets nous disent « L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin, il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés, il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. » Heureusement. Troisième vision. Il m'a envoyé cette vision, le Seigneur se tenait sur un mur mesuré au ruban. Et il avait un niveau dans la main. L'Éternel m'a dit, que vois-tu, Amos? J'ai répondu, un niveau. Et le Seigneur a dit, je mettrai le niveau au milieu de mon peuple, d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. Les hauts lieux d'Isaac seront dévastés, les sanctuaires d'Israël seront détruits, et je me lèverai contre la famille de Jéroboam avec l'épée. Alors cette troisième vision, c'est celle du ruban et du niveau. L'Éternel veut voir où en est la situation du peuple et demande à Amos de lui dire ce qu'il voit. Et Amos répond qu'il voit un niveau. L'Éternel lui dit qu'il va mettre le niveau au milieu du peuple d'Israël. Et Dieu est toujours prêt à accorder sa miséricorde rapidement. Il est patient et Israël était un véritable mur, une solide muraille que Dieu a lui-même utilisée pour défendre son sanctuaire. Mais le Seigneur semble maintenant se tenir sur ce mur. Il le mesure et constate quels en sont les points faibles. Dieu voulait mettre à l'épreuve le peuple afin que celui-ci constate son iniquité. Le temps va venir où ceux qui se sont éloignés de Dieu ne le seront plus. Et le Seigneur considère toujours Israël comme son peuple, ça c'est sûr. Mais le résultat pour lui n'est pas satisfaisant. L'Éternel va se lever contre eux et contre la famille de Jéroboam avec l'épée. L'Éternel fait grâce, mais la limite est dépassée. Ce qui diffère des autres deux premières visions où il accorde son pardon, mais là, c'est fini. Et entre ces trois premières visions et les deux dernières, il y a une pause dans le livre. Et on nous parle du prêtre qui s'appelle Bethel, qui s'appelait Amatsia. Et en fait, il entend ces paroles d'Amos. Il entend que Amos va dire au peuple que Dieu va se lever contre Jéroboam, le roi, et sa famille. Donc il va dire que Amos conspire contre lui, et qu'il va mourir par l'épée. Et c'est pas pour rien que ce passage se trouve au milieu. Amos est menacé par le prêtre et lui demande de quitter le pays. Le prêtre qui est avec le roi, il lui demande de quitter le pays. Parce qu'ils en ont assez d'entendre prophétiser. Ils en ont marre. Et Amos était réputé pour être un dénonciateur des injustices. Injustice sociale qui embêtait fortement tout le monde à l'époque. Et c'est normal, quand on se sent attaqué, on répond. Mais Amos, il se laisse pas faire. Amos, il dit simplement qu'il n'est pas prophète, qu'il est juste un simple berger, et que c'est l'Éternel lui-même qui l'envoie pour annoncer ses prophéties, et notamment la mort du roi. C'est pour ça que le roi, il dit « qu'est-ce qui se passe ?» Et on continue avec la quatrième vision. Le Seigneur l'Éternel m'a envoyé cette vision. C'était une corbeille de fruits. Il a dit, que vois-tu, Amos ? J'ai répondu, une corbeille de fruits. L'Éternel m'a dit, la fin est venue pour mon peuple, Israël. Je ne lui pardonnerai plus. Ce jour-là, les chants du palais seront des gémissements, déclare le Seigneur l'Éternel. On jettera partout en silence une multitude de cadavres. Et cette vision est la vision d'une belle corbeille de fruits bien mûrs. Et Dieu commence avec cette belle image pour que le contraste soit encore plus fort. Imaginez que je viens vous voir tous après le culte et je vous donne cette image de cette corbeille de fruits. Je vous la donne. Je vous dis, voilà, j'ai une image pour vous. Une belle corbeille de fruits. Qu'est-ce que vous pensez à la première chose que vous pensez quand je vous donne cette image, vous pensez à quoi ? C'est beau. C'est coloré. Ça donne envie. C'est frais. Même si on n'aime pas les fruits, on voit que c'est quand même, voilà, les couleurs sont belles, l'harmonie, c'est beau, c'est chouette. Et le peuple pensait à l'époque la même chose. Pensait que c'était quelque chose de positif. Surtout qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, il y avait une fête qui célébrait les récoltes de l'été. Et en fait, les gens remerciaient Dieu de leur avoir donné de belles moissons et attendaient que Dieu les bénisse pour les années à venir. C'était vraiment cette période-là. Et c'était le début d'une nouvelle année qui commençait pour eux. Donc pour eux, cette corbeille de fruits, voilà, on est béni par cette corbeille de fruits. C'était un bon point de départ pour les bénédictions qui allaient venir. Mais le problème, c'est que c'était pas du tout ça. Le problème, c'est que cette corbeille ne symbolisait pas du tout cela. En fait, Dieu voulait dire que le peuple était mûr. Mûr comme ses fruits, mais mûr pour le jugement. Donc, prêt à être jugé. C'était fini. Ils en avaient assez de les prévenir, de les sauver. Et la corbeille de fruits signifie qu'Israël était mûr pour le jugement, car Dieu ne lui pardonnerait plus. C'est de pire en pire dans la situation de vie du peuple. Une famine spirituelle les guette. Et j'aurais pas aimé être à leur place. Quand le fruit est mûr, il doit être cueilli. Il ne grandit plus. Il peut également se dessécher, pourrir, voire mourir si on ne le cueille pas. Il est simplement bon à jeter, donc l'image était forte, c'était terminé, le châtiment était tombé. Et la cinquième et dernière vision annonce la fin du royaume d'Israël, d'une manière irrévocable, ce qui implique même un changement dans la relation entre Dieu et son peuple. Et en effet, l'alliance est brisée, c'est fini. Les quatre visions précédentes montraient avec intensité que cela allait arriver. Et cette rupture ne donnera pas de bons fruits, car moins de 50 ans plus tard, après le ministère du prophète Amos, Israël partira pour un exil sans retour. Personne ne pourra échapper au jugement de Dieu, le bras de la loi de Dieu s'étend pour mener à bien l'exécution de sa justice parfaite. Alors certaines personnes pourraient penser qu'un Dieu d'amour ne peut pas agir de telle manière. Mais ce qu'il faut comprendre et apprendre à discerner ici, c'est que la justice de Dieu ne se dissocie jamais de sa sainteté, sans jamais non plus contredire son amour. Le père qui aime son enfant sera en colère et ressentira une profonde blessure si son enfant ne lui répond pas ou est méprisant avec lui par méchanceté, il sera obligé de le punir pour marquer ce qui est mal. Et malgré tous ces événements, malgré la gravité du mal, Dieu va offrir son salut. Un reste existe. Et le reste, c'est une notion très présente dans la Bible, la notion du reste, la théologie du reste. En effet, il dit dans le chapitre 9, verset 8, il dit « Le Seigneur l'Éternel a les yeux sur le royaume coupable. Je le détruirai de la surface de la terre. Toutefois, ce n'est pas entièrement que je détruirai la famille de Jacob, déclare l'Éternel. » Le « pas entièrement » ici nous montre le reste. Ce qui veut dire que l'espérance est toujours là. Et ce qu'on peut retenir de ce livre, c'est qu'Amos, ce simple berger, simple agriculteur, a obéi à Dieu. C'est un exemple dans la prière, parce qu'il demande à Dieu d'épargner Israël dans les deux premières visions. Dieu lui a donné le courage et la force d'annoncer au peuple et au roi surtout. Vous imaginez, on va devant le roi, on lui dit, vous allez mourir par l'épée. Pas tout le monde aurait pris cette décision. Dieu est bon, il est lent à la colère, mais il est également juste, et il punit lorsque les bornes sont dépassées. Alors, est-ce que ça nous arrive encore aujourd'hui, à nous ? Moi, oui, personnellement, ça m'arrive parfois de dépasser les bornes avec Dieu, mais il est toujours là pour nous, pour moi, pour nous aider quand on crie vers lui. C'est juste magnifique, c'est incroyable. On ne mérite pas tant d'amour, mais pourtant, il nous le donne, grâce à Jésus-Christ, bien sûr, qui a pris toutes ces choses à la croix. Mais pourquoi recommençons-nous à chaque fois, même si on le sait? Pourquoi tombons-nous toujours dans le piège? Peut-être que nous ne prenons pas de décision et qu'on se dit, oui, Dieu va nous aider, on n'a rien à faire, nous. Dieu nous aide si nous avons la volonté d'arrêter. Et je parle ici d'arrêter une chose qui peut nous empêcher d'avancer dans notre foi. Et peut-être que Dieu vous envoie aujourd'hui une corbeille de fruits. Une corbeille de fruits bien mûre. Peut-être qu'il nous l'envoie pour que nous réalisions qu'il est temps de prendre cette décision. De demander pardon. De changer de direction. De changer de comportement envers lui, envers nous-mêmes ou envers les autres. Ceux ou ces choses qui nous empêchent d'avancer avec lui. Et ne les laissez pas pourrir, ces choses-là, comme les fruits. Faites une salade de fruits, mangez-les. Et utilisez-les. Utilisez cette opportunité de pouvoir vous nourrir de ces bienfaits réconfortants et guérissants. Non, Dieu ne fait pas tout le boulot, on a aussi notre part à faire, une décision à prendre. Alors voilà, en quelques minutes, le survol de ce personnage de l'Ancien Testament, Amos, qui mérite d'être vraiment lu, approfondi, et ça se lit assez vite, peut-être cette semaine, si le cœur vous en dit. Alors j'espère que vous avez donné envie de lire ce livre, que vous avez un plan général en tête de ce qui s'y passe.